Salut à tous, bienvenue sur lematin.ch pour un nouveau podcast de cette équipe. Cette fois, on a chaussé les lattes pour analyser le début de saison de Coupe du Monde de ski. Avec Rebecca Garcia et Christian Maillard du Sport Center ainsi que Laurent Morel du site skiactu.ch, on a décortiqué le Marco Odermatt et tout ce qu'il veut dire pour le ski en Suisse. On a aussi parlé relève, on a parlé Lara Goute, on a parlé Michel Guisin et on a donné nos coups de cœur et coups de gueule de ce début de saison. Bonne écoute du premier podcast de la troisième manche. Messieurs et Madame, bonjour. D'abord, bonjour Rebecca, comment ça va?
Mais ça va très bien et toi?
Me écoute, pas mal, pas mal. Salut Christian.
Salut Robin, la
Et
forme.
salut, ça va bien. Salut Laurent aussi de Ski Actu, comment ça va?
Et salut Robin et bonne année, hein.
Exactement, je ne sais
Alors,
pas jusqu'à quand on peut dire ça, mais on va le dire. Bon, d'abord Rebecca, raconte-moi Adelboden, est-ce que c'est toujours aussi magique? J'ai vu qu'il y a des gens quand même qui se tapaient des raclettes pâtes au petit-déj. Ça a un peu choqué ma copine, mais moi, ça m'a donné faim. Comment c'était ce week-end?
Oh, ça me donnait aussi un petit peu faim en vrai. C'est peut-être le froid qui fait ça, mais non, le week-end était fidèle à Adelboden, on va dire. Hein. C'est toujours un peu la foire, cette histoire. Mais dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une ambiance hyper différente, je trouve, entre le samedi et le dimanche. Le dimanche, il y a quand même un côté plus familial. Le samedi, c'est vraiment société de jeunesse. J'ai pris le car, le ski, bof, mais l'apéro cool, quoi. Donc c'est toujours assez particulier et à la fin, c'est Odermatt qui gagne.
On a vu dimanche les Suisses moyens hein, du grand Marc Rochat, mais la star, c'est pas ce River Radamus, Laurent?
Ah ouais, la panthère, tu veux dire la panthère. Radamus, ce bon vieux River Radamus avec ses coupes de cheveux pour le moins particulières, on va dire. Ouais, non, lui, c'est un vrai phénomène, mais il est cool à voir sur les skis et cool à voir en dehors des skis. Donc, on peut le dire. Après, moi, je suis un peu moins sévère que toi sur la prestation d'ensemble des Suisses hier, mais on en reparlera peut-être un petit peu.
Ah oui, alors tout à fait. Bon, Christian, on va attaquer le gros morceau de cette première partie de ce podcast. C'est forcément Marco Odermatt. Alors d'un côté, il vole, hein, le gamin, il est dans une autre ligue. Mais c'est pas presque un peu chiant finalement, parce que pour nous les Suisses, on kiffe, mais pour le ski, pour le classement général de la Coupe du Monde, est-ce que c'est pas un peu embêtant?
Bon, avec la blessure de Schwartz, ça devient vraiment très embêtant parce que voilà, il va survoler la Coupe du Monde, même si Kildé va un petit peu le taquiner, mais pas plus que ça. Mais il est tellement beau à voir, quoi. Franchement, alors oui, pour nous, parce qu'il faut chaque fois trouver d'autres superlatifs, d'autres angles pour parler de lui, mais non, c'est toujours un bonheur de le voir à l'œuvre. Alors, chiant, non, je crois pas.
Rebecca, sur place, c'était vraiment Lottimania, c'était vraiment c'était Dieu, quoi.
C'est clair, mais ce qui est marrant, c'est arrivé là. Puis, alors déjà, tu remarques que les Lignevaldiens sont plus présents à Berne que tout ce que tu peux les voir dans toute la Suisse d'habitude. On m'a dit qu'ils avaient quand même ramené 21 quarts pour ramener tout ce petit monde à Adelboden. Et c'est hyper chou parce qu'en fait, tu vois que tu as des gens à qui tu parles et ils disent « Ah, mais moi, je connais Marco, je connais ses parents, c'est cool, c'est vraiment un bon gars et tout. » Donc, tu as vraiment cette espèce d'émulation autour de Di. Et en plus de ça, tu as les personnes qui suivaient vaguement le ski alpin aussi, il y a 10 ans, par exemple, ou autre. Et maintenant que les Suisses peuvent gagner, ils ne se cachent pas que c'est encore mieux d'aller voir des courses quand tu sais que tu as ta patrie qui peut briller.
Laurent, dans la salle de presse, quand tu es avec les Français, avec les Autrichiens, alors je pense qu'ils doivent se dire ah, quel bel athlète et tout, mais est-ce que c'est aussi chiant pour eux que pour nous ça l'était quand Hermann Mayer gagnait tout, quand Marcel Hirscher gagnait tout?
Ouais, c'est certain que ouais, tout le monde est un petit peu fataliste, on va dire, d'une certaine manière, parce que pour bousculer Audi en géant ou en super G. D'ailleurs, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais le problème, c'est que tout le monde aimerait bien qu'il y ait un petit peu de concurrence, mais tout le monde aime Odermatt parce que il va quand même faire l'effort toujours de venir répondre aux interviews, il va quand même toujours faire l'effort d'essayer de glisser un petit mot en français, de glisser une petite anecdote pour justement pas être trop lisse. Quand tu as préparé cette émission là, ce podcast, tu nous as écrit, tu as dit est-ce que Odermatt n'est pas trop lisse? Bah, j'ai envie de te répondre non, pas forcément. Alors oui, il est obligé de venir répondre aux interviews, on est obligé de lui poser les mêmes questions, il est obligé de donner les mêmes réponses au début. Mais il fait quand même toujours un petit effort pour essayer de trouver une belle petite anecdote. Adèle Bodden, il s'est plaint qu'il n'y avait pas de champagne sur le podium. Il a toujours ce petit mot. On sait qu'il aime bien boire une bière avec son pote Justin après certaines courses. On sait qu'il est, il n'est pas le dernier à aller faire la fête. Et franchement, c'est vraiment difficile de trouver un vrai moyen de le critiquer. En tout cas, de mon côté, j'ai l'impression.
Et sur cette concurrence là pour la Coupe du Monde, pour le gros globe, est-ce que c'est pas un peu dommage? Est-ce que ça ne diminue pas son mérite?
Oui, son mérite est absolument pas diminué. Ça c'est certain. Je crois qu'il serait de toute façon allé le chercher cet hiver parce que Marco Schwartz était extrêmement fort, mais je crois que Audi était encore bien bien plus fort. Après oui, c'est dommage. C'est un petit peu la dure loi du ski. Moi, je mettrais peut-être juste un petit bémol. Il faut quand même faire attention. C'est du ski. Il y a des risques de blessures, même pour Odermatt. Lui, le premier le dit. L'année passée à Kitzbühel, il est passé tout près de la correctionnelle. Il a raté ensuite le géant Schladming et il a pu continuer et battre son fameux record de points. Pour l'instant, il est complètement parti pour le battre à nouveau. Après, c'est du ski et une blessure est extrêmement vite arrivée. Même si on a l'impression qu'il est toujours solide, qui peut rien lui arriver, parce que c'est vraiment, je crois, ce dont tout le monde a l'impression en ce moment. Voilà, attention quand même, on ne sait jamais, et Marco Schwartz en a fait les frais il y a quelques semaines.
Voilà. Si on sait que Marco Odermatt n'a pas signé la célèbre liste des coureurs qui voulaient que la FIS régule un peu mieux son sport, notamment pour des raisons climatiques, alors, d'un côté, il y a ce côté bon pote, bon Suisse allemand qui va boire sa bière, qui a un mot rigolo. Mais comme Federer, sur les sujets entre guillemets de société, il a un peu de la peine à se positionner ou il n'a peut-être pas envie de le faire aussi. Hein. Est-ce que pour toi, un sportif doit absolument se positionner sur ces sujets ou est-ce que tant qu'il est bon sur les skis, on est content?
Non, alors il doit se positionner. Christian, je te laisse peut-être répondre. Après, je réagirai. Vas-y, Christian.
Vas-y. Non, vas-y.
Non, voilà, pour moi, il doit se positionner. En général, Marco Odermatt le fait. Il sait qu'il y a un problème à ce niveau-là, pas que dans le ski d'ailleurs, et surtout pas que dans le ski. Et moi, je trouve que c'est plutôt cohérent de pas signer cette lettre. Certains l'ont signé, ça fait beaucoup parler. Certains l'ont signé et prennent quand même régulièrement un jet privé, un hélico et tout ce genre de choses parce qu'il y a des fois où quand on a un programme ultra chargé, parce que la saison de ski dure 3 mois, on n'a pas forcément le choix. Si on veut disputer toutes les disciplines, si on veut battre des records, si on veut être un grand champion, on n'a pas toujours le choix. Pour être performant, pour gagner du temps, pour moi, c'est une nécessité de pas toujours être le plus propre, de pas toujours prendre le train, on va dire. Et puis, Marco Odermatt a décidé de ne pas signer cette lettre pour rester cohérent avec ce qu'il fait. Et moi, je trouve ça, au contraire, assez respectable, contrairement à pas mal d'autres skieurs et skieuses qui ont signé cette lettre et qui ensuite vont prendre des hélicos.
Christian, justement, je te laisse répondre juste après, mais ce qu'évoque évoque Laurent, c'est assez vrai parce que Daniel Yule se veut plus propre que propre, mais lui aussi finit dans un hélico et puis lui a signé, quoi.
Ouais. Justement, mieux vaut ne pas signer. Moi, je partage l'avis de Laurent, quoi. C'est voilà, eux, ils sont des skieurs. Ils ont certainement aussi un avis sur la question. Alors ça, c'est certain. Je pense que Rebecca va pas me contredire. Il a pas signé. C'est son droit. Je sais pas. Même si c'est le porte-parole, même s'il est le meilleur skieur de la planète. Il a le droit de ne pas signer cette lettre.
Enfin, Rebecca, Rebecca, est-ce que tu ne vas pas le contredire?
Pour moi, c'est un peu la même analyse, en fait. C'est-à-dire que ce serait trop cool qu'il signe la lettre et puis qu'il dise oui, allez, soyons tous écologistes, le ski alpin sévère, etc. Mais ce serait hyper hypocrite de sa part. Et du coup, je pense que c'est un peu la raison évidente pour laquelle il n'a pas signé. Moi, quand je vois Lewis Hamilton, par exemple, en F1, qui dit oui, il faut être vert, et puis le mec, il conduit des Formule 1, dans tous les pays les plus polluants du monde, je trouve quand même ça un petit peu hypocrite, même si en soi, le message est bon et l'idée est bonne. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, ces questions-là. Donc, je pense que de toute façon, il fait faux. Et que peu importe qu'il signe ou pas, ce sera faux d'une certaine manière. Donc, il a choisi ce chemin-là et ma foi, je ne sais pas trop comment le dire.
Laurent, ce qui est bien avec Marco Audermatt, c'est que bah, il domine, hein, Super G géant. Il a le dossard rouge en descente aussi, mais il n'a toujours pas gagné une descente de sa carrière, ce qui peut paraître assez incroyable. Et donc, il a encore une marge pour nous impressionner, une marge pour nous faire rêver. Est-ce que déjà, avec son gabarit aussi, une piste comme Wengen, ça peut lui convenir?
Oui, alors là, on s'apprête à vivre 2 semaines assez pleines, on va dire, avec Wengen et Kitzbühel. Il y a 2 descentes à chaque fois. Donc, faut savoir qu'il y a une descente sprint à Wengen et une descente sprint à Kitzbühel. Alors, à Kitzbühel, c'est encore pas très clair. Je sais plus où on en est. En tout cas, à Wengen, il y a une descente plus courte où il y a pas mal de la zone qui lui convient un peu moins sur le haut qui va être amputée. Du coup, oui, il peut clairement gagner Wengen. De toute façon, il peut gagner partout, hein, je te dirais. Mais c'est bien, ça nous laisse encore au moins un petit peu un petit objectif à atteindre. Ouais, il va en gagner une sur les quatre, là, Robin. Franchement, je crois que là, je crois qu'on peut se mouiller. Ça fait combien de fois qu'il est à 5 centièmes de la victoire ou à moins de 10 centièmes de la victoire là, en descente?
Non, moi je parie qu'il va gagner à Wengen. C'est à Wengen qui doit gagner sa première, c'est ça. Comme Adel Boden, ça va être le roi, ça va être une fête incroyable là-haut, au Leberhorn. Oui, il va gagner là-haut. Oui.
Rebecca, tu penses que gagner une course sprint à Wengen, ça aura la même saveur pour lui?
Oh, tu sais, les gens retiennent les faits. Après, la manière dont ça a été obtenu, ça restera sa première descente de Coupe du Monde. On rappelle quand même qu'il a gagné les mondiaux. On rappelle quand même que le mec est champion du monde de descente. Moi, je pense qu'il peut gagner partout. C'est une question de temps. On a vu en Italie notamment qu'il lui manquait quelques centièmes. Ça, comme d'habitude avec le ski alpin, bon, sauf quand il gagne avec plus d'une seconde d'avance en géant. En descente, ça se joue un peu à rien. C'est vraiment ils sont trop forts. Marco Odermatt aussi trop fort. Et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il remporte sa fameuse descente. Mais comme Laurent, pour moi, plus ça vient tard, presque mieux c'est. Parce qu'il y a quelque chose qui l'anime. Tu sens que ça le titille. Tu sens qu'il a envie d'aller la chercher. Et je trouve que Marco Odermatt en mode chasseur, c'est tellement chouette, quoi. Tu vois vraiment que ça lui tient à cœur. Là où même s'il avait envie de gagner le géant d'Adel Boden, typiquement, il y avait un peu plus le côté c'est mon job, je sais le faire, je vais le faire. Mais la descente, c'est vraiment je sais pas ce qui me manque. Et je trouve que ça va être cool. Donc s'il gagne pas à Wengen tout de suite, moi ça me va. Parce que au moins, ça le rendra encore plus, comment dire, affûté pour la suite.
Christian, je pense qu'il faut quand même qu'on prenne une petite minute pour se dire la chance qu'on a d'avoir un gamin comme ça aussi, parce que ben, pas seulement pour notre patriotisme, pour tout ça, mais aussi pour notre job, quoi, parce qu'un Marco Odermatt dans les titres d'un site internet ou d'un journal, ça transcende la Suisse. Lui essaye de parler français. C'est pas toujours très intéressant et je pense qu'il aurait meilleur temps de nous faire des interviews au bon allemand pour pouvoir raconter un peu plus de choses. Mais d'avoir un gamin comme ça à suivre au quotidien, c'est un bonheur.
Oui, il faut en profiter. Quand tu dis qu'il dit pas grand-chose en français, mais même en suisse-allemand, hein, parce que mon voisin, il écoute la télévision suisse-alémanique, mais il m'a encore dit hier que c'est d'une platitude, mais quel champion, voilà. On a eu des sportifs à l'époque, que ce soit des footballeurs qui s'exprimaient avec des pieds. On a des noms, enfin, on va parler des voiles ici. Mais il y a eu aussi des skieurs comme Mike van Grüningen qui disait pratiquement rien, même en allemand, où nos confrères nous enviaient d'avoir un Locher ou des gens qui savaient parler, qui avaient des histoires à raconter. Je crois qu'il faut profiter surtout de le voir à l'œuvre, de le voir skier, de le voir. de le voir comme il est. Enfin, il reste un gars, un champion qui reste humble. Et puis en plus, les gens l'adorent. Non, il faut profiter. Encore quelques années. Il a quoi, 26 ans. Il faut profiter. C'est un beau champion. C'est un beau champion. On a eu Federer. Il était lisse aussi. C'est la même chose.
Laurent, je ne crois pas qu'ils sont vraiment lisses. Je crois que c'est difficile quand tu gagnes deux fois par week-end de trouver toujours quelque chose de nouveau à dire. J'ai eu l'occasion d'en parler avec lui-même directement. Où, voilà, il fait aussi l'effort d'essayer, mais il y a un moment où on lui pose la même question parce qu'on est obligé de lui poser la même question et il donne la même réponse parce qu'il est obligé de donner cette réponse. Je crois que ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça, d'une certaine manière. Et on ne peut pas forcément lui en vouloir pour ça, à mon avis.
Puis Rebecca, il y a le truc aussi, quand tu viens de te taper une descente ou un super G ou un géant, que tu as été à fond pendant une minute, 1 minute 32 minutes, sans avoir revu la course, en ayant juste les sensations et le chrono, c'est pas facile de dire des choses intéressantes là-dessus. Peut-être deux heures après, avec le recul, ils pourraient analyser le truc vachement mieux.
Non, c'est sûr. Et après, nous, on ne l'aide pas non plus. Hein. Des fois, franchement, on pose des questions.
Est content d'avoir gagné.
Ouais, c'est ça. Hein. Et puis, du coup, la victoire, ça fait plaisir. Voilà quoi. Et puis, au bout d'un moment, il répond à ces questions. Il ne faut pas oublier, parce que ça, on ne se rend peut-être pas compte quand on le voit à la télévision notamment, c'est qu'il descend, il doit parler à la télévision francophone, à l'émanique, il doit parler aux Italiens, il doit parler suivant quoi, à la BBC, après il va à la presse écrite. En fait, ça ne s'arrête jamais. Pendant une heure et demie, ils prennent dans l'air d'arriver à répondre aux mêmes trois questions sur comment ils sont, comment étaient ses jambes, est-ce qu'il va aller chercher un record, etc. etc. Enfin, franchement, ça a l'air d'être un cauchemar à ce niveau-là, parce que forcément, ce n'est pas là qu'on est stimulé et qu'on a envie de raconter des choses intéressantes. Et aussi là, en tant que journaliste, tu ne peux pas vraiment poser des questions magazine. Ce n'est pas là où tu peux lui faire une petite question, rien à voir, où il va doucement sourire et dire « Ah oui, haha, marrant !» C'est vraiment un format qui est un peu ingrat pour ça. Et du coup, ce n'est pas étonnant qu'il donne des réponses relativement lisses à ce moment-là. Et lui parler hors saison, c'est aussi compliqué parce que c'est quelqu'un qui, mine de rien, tient à sa vie privée, qui tient aussi à faire un break et pas être tout le temps ski, ski, ski. C'est peut-être ça qui lui réussit aussi, mais du coup... contre-coup de ça, c'est que tu peux pas aller le voir l'été et passer une après-midi détente à marcher au bord du lac avec lui pour qu'il te raconte son enfance.
Laurent, pour un site comme Ski Actu, c'est quand même le numéro un. S'il n'y avait pas Marco, ce serait une autre vie.
Ouais, ce serait une autre vie, bien sûr, bien sûr. Enfin, c'est Unzerodi, c'est clair. Après, faut pas non plus réduire le ski suisse à Marco Odermatt en ce moment, parce que tout ce qui se passe derrière, c'est aussi assez extraordinaire, notamment en Suisse romande et notamment avec tout ce qui arrive derrière Marco Odermatt. Après, oui, Marco Odermatt, c'est en Suisse, c'est Roger Federer maintenant. Je crois que on était un peu orphelin de Roger. On a Audi et puis tout le monde se réunit un peu derrière lui parce qu'il a ce côté magicien dans son sport, et puis là, ce côté rassembleur un petit peu en dehors du sport. Quoi. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever ça. Et pour nous, c'est quand même toujours extraordinaire de pouvoir travailler avec lui, parce que ça arrive assez souvent qu'on soit les seuls médias suisses ou en tout cas romands sur certaines étapes de Coupe du Monde. Et il ne va jamais rechigner à venir discuter après sa course, même s'il a fait, comme le disait Rebecca, les télés à l'avance, les radios, et j'en passe. Il va toujours faire le travail, toujours venir répondre. Et puis après, à nous aussi de faire en sorte de respecter un petit peu son emploi du temps et sa vie privée aussi.
La transition est toute trouvée. Laurent, tu as parlé de ce qui se passe autour et derrière Marco Odermatt. On a aussi la ragoutte qui n'en finit plus de durer. Ça fait quand même quoi, 17 ans qu'elle est sur le circuit. Alors Rebecca, dis-moi, on a vu Marc Rocha ce week-end, on a vu Camille Ras ce week-end. C'est pas forcément la relève, c'est déjà des coureurs habitués à la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qui se trame derrière chez Suisski? Est-ce qu'une relève pointe le bout de ses spatules? Et on connaît Alexis Monet et compagnie, mais est-ce que chez les femmes notamment, est-ce qu'il y a une relève qui est bientôt prête?
Bah, chez les femmes, c'est quand même moins évident que chez les hommes avec les nouveaux noms qu'on a pu voir, notamment en vitesse. Je pense à Alexis Monet, à d'autres skieurs, à Arnaud Boisset aussi, qui ont quand même fait des entrées assez tonitruantes sur le circuit de Coupe du Monde. Chez les femmes, c'est moins évident, mais après, c'est compliqué quand tu as une Lara Gut-Bérami qui est au sommet du sommet depuis, comme tu dis, depuis 16 ans. Franchement, faut se placer à côté. Après, les places sont dures. T'as aussi ce côté, bah, typiquement Noémie Colli, qui est toujours un grand espoir en vitesse. Typiquement, t'as les blessures, t'as les problèmes, t'es un peu mis de côté du groupe Coupe du Monde parce qu'en fait, il y a de la relève et il faut laisser la chance aux autres. Enfin, la Suisse, pour ça a l'air d'être un beau vivier, mais qui est aussi compliqué à vivre. Donc, j'ai envie de dire relève, je sais pas, moi je suis tombée il n'y a pas longtemps sur un article de 2015 paru dans un de nos médias, dans le 24 heures, qui disait au secours, on n'a plus de géantistes en Suisse. Et 8 ans plus tard, on a Marco Odermatt, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Et même s'il n'y a aucun nom qui paraît ultra évident là tout de suite, ça peut venir très très vite quand même.
Christian, il y a des Nicole Gaude, il y a des athlètes comme ça. Est-ce que c'est dur de faire sa place en Suisse? Ben là, heureusement, il y a quelques courses en Suisse qui permettent d'aligner beaucoup, beaucoup, beaucoup de coureurs grâce au quota. Mais est-ce que vraiment ça pousse derrière ou est-ce que c'est difficile de briller? Parce que là, on voit si un type fait 12e, ce sera plutôt anonyme, alors qu'en France, il aurait une demi-page dans l'équipe.
C'est juste. Il y a Nicole Gaude, tu l'as dit, il y a Stéphanie Grobe aussi, qui font leurs armes en Coupe d'Europe. Je pense qu'on va les voir d'ici quelques mois en Coupe du Monde, ça j'en suis convaincu. Il y a des jeunes qui poussent derrière, on a parlé d'Arnaud Boisset effectivement aussi, du jeune Alexis Monet. Et comme l'a dit Rebecca, il y a aussi effectivement, il y a des blessures qui freinent l'ascension. Mais des jeunes, il y en a. Ils vont arriver, c'est évident. Ils
Ouais,
vont.
alors, ouais, je me permets d'intervenir. Chez les messieurs, je crois qu'on a vraiment très peu de soucis à se faire, en tout cas, de skier en vitesse. On a des jeunes qui arrivent vraiment à tire-larigot, et il n'y a pas de soucis. Il y aura des blessures, mais il y a un réservoir monstrueux. En slalom, c'est un peu plus compliqué, et avec l'équipe extraordinaire qu'on a en ce moment, ça a un petit peu bouché le chemin en slalom. Voilà. Mais côté masculin, je pense qu'il y a vraiment pas de souci à se faire. Par contre, côté féminin, non, non, c'est vraiment très, très compliqué. On va avoir un gros trou générationnel. Tu parles de Nicole Gaude, elle a quand même déjà 26 ans. C'est maintenant qu'elle fait ses premiers résultats. Alors, c'est très bien, hein, ce qu'elle fait. Bravo à elle et je lui souhaite vraiment de continuer sur cette voie et elle montera peut-être sur des podiums. C'est en tout cas tout ce que je lui souhaite. Par contre, franchement, il y a vraiment un souci derrière. Tu as parlé de Lara Gut-Bérami. On sait qu'elle s'entraîne plus ou moins de son côté. Donc, de toute façon, ça c'est difficile de tirer une équipe derrière. Et puis, ben, les autres, c'est des petits groupes qui ont été faits. Il y a pas mal d'ajustements qui ont été faits dans les groupes Coupe du Monde. Et puis, ben, ouais, franchement, il va y avoir Camille Rast, il va y avoir Mélanie Meillard. Derrière, il y a quand même un vrai trou. On voit que Julian Assouter, qui était l'un des tout grands espoirs de la vitesse suisse, a mis fin à sa carrière un peu à la surprise générale récemment. Non, non, chez les filles, il va y avoir un gros souci prochainement. Alors, est-ce qu'il y a un manque de travail qui a été effectué pour expliquer ça? Je ne sais pas. C'est peut-être simplement un trou générationnel, comme il y en a toujours eu dans le ski suisse bah, voilà, depuis très longtemps.
On ne devrait pas avoir les gamins qui étaient au JOJ bientôt à ce niveau-là.
Oui, alors ça c'est un autre souci, c'est que les JOJ, ça reste. Enfin, on y était ensemble, hein, tu t'en souviens bien, Robin, je pense. Mais ouais, il y a quand même un gros gap. Il y a d'ailleurs un énorme gap entre la Coupe d'Europe et la Coupe du Monde. Vraiment un énorme gap à passer. Et beaucoup sont d'ailleurs pas capables de franchir ce pas. Et en tout cas, ouais, franchement, je me fais quand même pas mal de soucis, surtout que il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde qui arrive. On n'a peut-être aussi pas forcément toujours invité des jeunes sur la Coupe du Monde. Il y a franchement beaucoup de places chez les filles qui sont pas forcément utilisées, hein, des quotas qui sont pas remplis en tout cas dans les disciplines techniques. Donc, pourquoi des fois, c'est que le niveau n'est pas suffisant pour aligner certaines filles en Coupe du Monde. C'est un peu malheureux, mais oui, profitons pour l'instant et on réfléchira à ça après la retraite de Raghu Behrami et de Michel Guizine.
Michel, ouais.
On va parler de Michel Guizine, justement, Rebecca, on enchaîne parce que bah, comme ça, on ne fait pas un podcast de 2 heures et demie, il y a tellement de choses à dire. Rebecca, Michel Guizine, bah, il y a eu ce podium en slalom, mais moi, j'ai quand même chaque fois l'impression que, tu sais, à force de vouloir être moyenne partout, elle oublie d'être forte à dans une ou deux ou trois disciplines. Parce que, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que c'est compliqué quand même. Moi, ça me frustre vraiment.
Mais ça, c'est quelque chose qui semble aussi la frustrer sans la frustrer. C'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à justement multiplier les disciplines. L'année passée, je ne sais plus si elle avait fait toutes les courses au final, ou en
Oui.
tout cas, toutes. Okay. Donc oui, elle a envie, mais en fait, c'est quelque chose qui lui plaît aussi, quoi. C'est pas quelque chose qu'elle a envie de lâcher. Je pense qu'elle est consciente que c'est pas forcément optimisé. Mais en tout cas, elle, c'est quelque chose qui lui plaît. Alors, est-ce que c'est la meilleure décision? Je ne sais pas. Est-ce que ce serait mieux d'avoir une Michelle Guisine peut-être frustrée qui se dit, ah, mais si j'avais fait tel slalom quand même. En plus, vu qu'elle fait des podiums, qu'elle retrouve les podiums, peut-être que ça lui donne aussi moins envie de lâcher certaines disciplines. Franchement, je sais pas, mais on voit en tout cas qu'elle, c'est une question qu'elle a en permanence au-dessus de sa tête. Elle a toujours un point d'interrogation à se dire, mais est-ce que je vais devoir lâcher? Mais ses entraîneurs lui soufflent un petit peu que des fois ce serait bien de penser plus stratégique, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'elle a envie d'écouter et de faire. Donc parfois, c'est sa décision, on va dire.
Christian, est-ce qu'elle ne va pas finir frustrée? Peut-être, on ne saura jamais, hein, mais si elle se lançait seulement en vitesse, peut-être qu'elle pourrait aller taper un peu plus haut que maintenant.
Elle doit se poser des questions également avec son matériel. Il ne faut pas oublier qu'elle a tout changé et puis qu'il y a, y a des disciplines où elle arrive mieux avec ses nouveaux skis, ses nouvelles chaussures à briller. On a vu que ce soit en slalom, elle fait un podium. Elle a le sentiment que, comme elle disait, qu'elle s'était énormément entraînée cet été dans les épreuves de vitesse. Après, elle hésite, comme disait Rebecca, elle hésite aussi à zapper des courses. À Val-d'Isère, elle savait pas si elle allait aller à Courchevel ou pas. Elle est quand même allée. Et puis là, elle est partie pour de nouveau un marathon parce qu'elle aime ça.
Ouais, mais parce qu'elle voulait vraiment arrêter le slalom, hein. Elle voulait vraiment le mettre entre
Voilà.
parenthèses.
C'est juste.
Elle a vraiment quasiment enfin, entraîné 3 ou 4 fois moins de slalom cet été parce qu'elle voulait calmer un petit peu tout ça, faire des impasses en slalom. Après, elle vient disputer des slaloms, elle vient en faire et elle fait des gros résultats, puis elle fait des podiums. Alors, elle est presque un peu emmerdée.
C'est
Vraiment,
ça.
elle-même le dit, hein, elle est presque un peu emmerdée. Elle ne peut pas commencer à zapper des courses si elle fait des podiums, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Mais oui, elle s'est posé la question. Oui, elle a choisi de se concentrer sur la vitesse parce qu'elle adore ça, ouais, parce qu'elle se fait plaisir, parce que son matériel marche bien en vitesse et plein de choses. Mais finalement, il marche aussi très bien en technique. Et puis, c'est difficile. Franchement, le géant, c'est sa discipline de cœur, celle où elle a peut-être le plus de capacité. Le slalom, elle voulait se calmer, elle fait encore des podiums. Et puis la vitesse, elle adore ça. Puis de toute façon, comme beaucoup avec la vitesse, avec l'âge, tu te penches un peu vers la vitesse. Donc, je crois qu'elle va continuer à être polyvalente jusqu'à la fin de sa carrière, qu'elle le veuille ou non, quoi.
Bon, pour finir cette deuxième partie, j'aimerais juste qu'on se tape un peu sur le ventre, hein, mais pour une fois, bah, c'est valable aussi en ski cross ou comme ça. Les Romands sont là, il y a une vraie culture encore du ski et du ski de compétition en Suisse romande. Laurent, c'est vraiment appréciable et on voit que ça ne se tarit pas, hein. Il y a toujours des gamins qui vont sur les pistes, il y a toujours des gamins qui veulent faire de la compète, qui progressent. On aura une génération de descendeurs romands bientôt, c'est assez incroyable.
Ouais, ça fait du bien d'entendre parler français, que ce soit pour nous et pour eux d'ailleurs, parce que j'ai encore eu l'occasion de discuter avec Alex Simonet. Les repas avec les Suisses allemands à 6 h du soir, des fois c'est un peu compliqué, hein. C'est en tout cas ce qui m'expliquait. C'est fatigant, hein, de devoir toujours switcher vers le Suisse allemand. Non, c'est assez incroyable. On a tout ce qu'il faut. On a les locomotives tout devant. On a les jeunes qui arrivent, comme tu le dis, en ski cross aussi, en freestyle, que ce soit en freeski avec Mathilde Gremaud, Sarah Huffin et autres, j'en parle même pas. Donc non, je crois juste, rendons-nous compte de cette chance qu'on a, ce ne sera pas toujours le cas. Profitons-en, c'est des athlètes extraordinaires et des personnes extraordinaires. Et puis, on a aussi le droit de le dire quand ça se passe vraiment, vraiment bien.
Christian, je ne vais pas te l'apprendre à toi. Ça fait du bien de ne pas trop entendre parler suisse allemand dans l'air d'arrivée.
Ouais. Et ça fait, oui, ça c'est sûr. Et puis, ça fait plaisir de voir des Genevois aussi, nom de bleu, Tanguy Neff, Sixtine Cousine. Hein. C'est ça, on dit comme ça, Cousine.
Cousin.
Bon.
Et Margot Dumont, la petite nouvelle.
Et voilà. Donc, il y en a pour tous nos cantons romands, donc ça fait plaisir. Et en slalom aussi, donc en slalom, en descente. Il y a que les filles, justement, où il y en a moins, hein, malheureusement. Moins
de romans,
il y a Camille Rast, il y a Mélanie Meillard, mais après, derrière…
La ragoûte, elle a un
problème. En proportion, il y en a suffisamment, en proportion avec le, oui, avec le réservoir, il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a un petit peu moins. Ouais.
Mm-hmm. Rebecca aussi. Au bas des pistes, il y a aussi de la Romandie, il y a de la jeunesse. C'est vraiment dans la culture.
Ah, il y a la jeunesse fribourgeoise, il y a les jeunesses vaudoises, il y a tout ce que tu veux, Adèle Bodden. Tu peux entendre parler de toutes les langues, toutes les manières en français de demander des bières. Ça, il n'y a pas de souci. Non, mais à part ça, plus sérieusement…
À partir de minuit, tout le monde parle la même langue, hein, quand même.
Ouais, c'est vrai que ça… T'as pas donné voyelles et c'est bon, tiens. Mais, non, mais après, c'est assez drôle parce que… Parce que ouais, tu remarques qu'il y a beaucoup, beaucoup de francophones qui sont ultra branchés ski, enfin francophones, je veux dire de romans bien sûr, mais qui sont ultra, enfin qui sont à fond là-dessus. Mais je pense pas qu'avoir forcément, typiquement à Marco Dormat, il rassemble à peu près tout le monde, c'est ça qui est assez drôle. Là où d'habitude, effectivement, il y a un côté très cocorico à d'autres athlètes, moi ça me fait toujours beaucoup trop rire cette question des meilleurs ou les Neuchâtelois dont je fais partie essayent encore de se les approprier. Enfin, c'est assez drôle au final parce que ça crée aussi une petite émulsion d'avoir un peu ces guerres de clochers qui se créent, ces petites tacles de part et d'autre.
Alors, c'était ma première question à Margot Dumont, la ski-crosseuse, hein, genevoise mais de Verbier. Bah, on est parti comme pour les meilleurs, on dira les deux, et puis on dira la romande au bout d'un moment, on va pas s'embêter. Bon, on passe direct à la troisième partie. Je vous ai demandé un coup de cœur ou un coup de gueule sur ce début de saison. Bon, je vais commencer avec moi, hein, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, j'adore ce que fait Justin Murizier. Alors, Dieu sait qu'il a été raillé longtemps parce que il était sur les disciplines techniques. Ça allait, puis pas trop, puis il se blessait, puis ça re-allait, puis il se re-blessait. Puis comme il parlait français, puis qu'il avait quand même une bonne grande gueule, on le prenait toujours à l'interview partout. Et on l'interviewait pour pas expliquer grand-chose finalement, parce que les résultats étaient moyens, et puis il se blessait, et puis on le réinterviewait quand même, puis on l'appelait deux fois par mois, parce que c'était juste un Murizier. Et là, il a choisi de partir en vitesse, où c'est incroyable, à 32 ans, il réussit des débuts assez phénoménaux, avec des résultats qui sont là, hein. On voit que c'est pas le seul qui a choisi d'aller vers la vitesse à un plus grand âge, Alexis Pinturo essaye de faire pareil. Mais Justin Murizier, ça marche bien, et puis il est content, il ne se blesse pas, ça tourne. On voit Marco Odermatt vibrer presque plus pour Justin que pour lui dans les airs d'arrivée. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais ouais, ça fait chaud au cœur, puis on a l'impression que c'est un pote qui réussit, parce que ça fait 10 ans qu'on le suit, et puis là, ça marche, tout le monde est content pour lui.
Oui, et puis c'est un gars qui s'est battu, qui a eu des blessures, qui n'a jamais renoncé, qui a toujours croché, qui a toujours été super dans les interviews, toujours positif. Et pas oublier non plus que c'était un espoir qui se battait avec Pinturo au niveau junior et qui se retrouve maintenant. Ce qui est drôle, c'est qu'il se retrouve avec Pinturo dans les épreuves de vitesse pour finir sa carrière. Mais oui, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Le gars, il a jamais, c'est un Valaisan, il se bat, il va jamais renoncer, quoi.
Laurent, il y a un petit soulagement aussi pour Justin d'y arriver un peu enfin.
Ouais, clairement, bien sûr, parce qu'à chaque fois, il y a toujours ce côté, tu l'as assez bien raconté, hein, ce côté, ah merde, de nouveau, ça va pas, de nouveau, il y a un souci, puis finalement, c'est là, et finalement, il peut jubiler, ça fait vraiment plaisir, et puis On parlait des prochaines descentes, des prochaines épreuves de vitesse. Surveillez aussi Wengen, Kitzbühel. Le podium sera pas loin pour Justin.
Rebecca, dans les aires d'arrivée, Justin, il y a du soulagement aussi. Tu le sens ou est-ce qu'il vit sa nouvelle vie de skieur de vitesse à fond?
Bon, moi, j'ai une expérience bien différente, notamment de Laurent, parce que je le côtoie depuis beaucoup moins longtemps que lui. Mais de ce que je vois de Justin, c'est qu'effectivement, il a l'air de se sentir bien en ce moment. Il est dans une bonne phase de sa vie. Les résultats, ça se passe plutôt pas mal. Il est dans un groupe qui est cool, qu'il apprécie. Enfin, Andermatt, c'est son grand pote. Donc, t'as l'impression qu'il est dans une phase qui est, voilà, dans la bonne zone, et ouais, ça fait franchement plaisir à voir parce que c'est quelqu'un qui est intéressant, qui a toujours des choses intéressantes à dire et quand il faut pousser un coup de gueule, il le fait aussi, notamment quand la sécurité des athlètes est un peu mise en travers ou quand il y a des décisions qui sont pas logiques. Je pense notamment au module l'année passée où il y avait la question du parallèle qui était en suspens. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est super précieux à la fois pour nous, à la fois pour le ski suisse parce que c'est une belle énergie et je pense qu'il est super important dans le groupe en tout cas. Donc ça fait plaisir de voir qu'il a l'air de se sentir bien.
Ouais, il est super important pour Marco Dormat. Faut pas oublier que vraiment c'est son grand pote et puis ils font tous les repos ensemble et franchement, je ne suis pas certain que Cody serait aussi fort sans Justin en ce moment.
Bon, Rebecca, on reste avec toi. Ton coup de cœur, ton coup de gueule sur ce début de saison
Coup de cœur, j'aurais envie de dire Valérie Grenier parce que là, je ne sais pas, ses résultats, ces derniers mois, en fait, depuis quelques temps, c'est. Voilà, elle est là, elle s'est définitivement installée. Enfin, je trouve que ça fait plaisir aussi de voir. Voir un peu d'autres athlètes justement que Brignonnet, que Goudperami, je trouve que ça amène un peu un vent de fraîcheur, mais sinon le coup de gueule cœur, parce qu'il fait les deux à la fois, j'avoue que c'est un peu Henri Christopherson, j'aime bien ce qu'il dégage, il a un peu ce côté, c'est lui qui va aller taper l'activiste, c'est lui qui va... tu vois aussi à Adelboden que quand c'est Henri Christopherson, les applaudissements sont un petit peu plus timides que quand c'est McGrath ou Kilday ou forcément les Suisses. Et du coup, je trouve qu'avoir un personnage comme ça, c'est hyper intéressant. Et c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule aussi, mais plutôt positif, quoi.
Christian, à ton tour, même exercice.
Ben, mon coup de cœur, c'est Marc Rochat. Marc Rochat, hier, il m'a fait... Je ne vais pas dire que j'ai pleuré, mais j'étais vraiment heureux pour lui. Ce gars aussi, c'est un battant et j'ai le sentiment, comme Justin, qu'il est très, très proche du podium, que ça pourrait très bien être Wengen ou Kitzbühel, mais c'est vraiment un gars que j'adore dans les interviews, que j'adore pour tout, quoi, pour son abnégation, et puis c'est un plaisir de discuter chaque fois avec lui dans les aires d'arrivée. Mon coup de gueule, ce serait Cyprien Sarrazin qui a volé la victoire à Kodermatt.
T'es dur, Christian.
Non, c'est pas vrai. J'aime beaucoup ce ski. Et à mea culpa, bravo à Jasmine Fleury que j'ai tellement critiqué. Titre mondial, je dois reconnaître que c'est une jolie petite championne. Voilà.
Laurent, c'est toi qui bouclera ce tour des coups de cœur de gueule.
Oui, alors évidemment, dans les coups de cœur, y avait Marc Rochat aussi, mais si on sort du ski alpin, il y a évidemment Mathilde Gremaud qui veut aller chercher un globe et qui fait tout pour le faire et ça a l'air de fonctionner pour l'instant. Sixtine Cousin, ça m'a vraiment fait très chaud au cœur. Je pense que tu sais ce que je veux dire, j'imagine, Robin, parce que d'avoir gagné après tout ce qu'elle a traversé, c'est assez extraordinaire. On a des jeunes fondeurs aussi qui cartonnent. Mais du coup, je vais dire Lara Goudperami, ça me fait un peu bizarre de dire ça. Mais franchement, ce qu'elle a réussi à montrer sur les skis et un petit peu aussi en dehors, c'est assez incroyable. Elle est vraiment posée. Elle a vraiment réussi à un début de saison assez extraordinaire. Et puis, elle est aussi agréable, beaucoup plus qu'elle l'a été à l'interview notamment. Et puis, ça fait plaisir de l'avoir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir de l'avoir gagné certaines courses, beaucoup plus qu'auparavant, parce que tu sentais qu'il y avait une vraie joie là-dedans. Et puis, bah, coup de gueule, ça s'adresse aussi un petit peu des fois à ce qu'on a retrouvé chez vous, chez Sport Center. C'est un peu ce ski bashing qui a été parfois justifié et parfois, à mon goût, un petit peu trop poussé, sans forcément que ce soit toujours entièrement justifié. Il y a plein de choses qui sont faites de manière fausse par la FIS et par le ski en général.
Sébastien Anné, ce petit trou du cul. Sébastien Anné, ce petit trou du cul. Sébastien Anné.
Ils l'ont dit. Ils l'ont dit. C'est pas
exactement
nous, c'est ce petit trou du cul de Sébastien Anné.
Salutations d'ailleurs à ce trou du cul de Sébastien Anné en passant. Et voilà.
On l'aime tous, Sébastien.
Oui, à part certains Zermatois qui ont un peu plus de peine, effectivement.
C'est vrai.
Bon, sur ces bonnes paroles, je vous remercie bien beaucoup, c'était très intéressant. Puis on se retrouve avec peut-être d'autres collègues, on verra encore comment on monte cette affaire la semaine prochaine pour encore un peu de ski. Et on reviendra pendant la saison de ski toutes les deux semaines sur ce qui se passe sur les pistes. Merci les amis.
Ben, merci à vous les gars, merci. C'était cool. Merci Rebecca, merci Christian, merci Robin, à tout bientôt l'équipe.